Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
2 ans à parcourir la Terre. Le summum de la liberté. Un extrémiste. Un esthète voyageur. Qui est chez lui. Sur la route.
Bonjour à tous. Cette semaine, on continue de voyager en compagnie d'âmes pures et solitaires en quête d'horizons et d'absolus qui ont décidé un jour de se retirer volontairement du monde, loin du désordre des villes et de l'embarras des autres. Dans le premier épisode de cette série, En retrait du monde, diffusée la semaine dernière, on a déjà fait l'éloge de la cabane, de la lenteur et du repli sédentaire. Aujourd'hui, on va quitter la cabane et se mesurer au grand dehors qui bien souvent frappe et souffle aux portes des cabanes. En puisant, comme on l'a fait la semaine dernière, dans les récits d'écrivains voyageurs qui sont allés chercher, dans les grands espaces, une feuille de route et une ligne de fuite dont nous manquons tellement en ces temps troublés. La contemplation, la relation à la nature, la solitude pour seule compagnie, voire remède, seront encore à l'ordre du jour de ce deuxième épisode intitulé « Immensité solitaire ». Déplions les cartes, les immensités sauvages nous attendent, à commencer par celle du Grand Nord.
Pour qui vit dans la neige et l'observe jour après jour, elle se lit à ciel ouvert. Les pages se tournent au souffle du vent, les lettres ne tiennent pas en place, forment de nouvelles alliances, de nouveaux sens dans un langage qui pourtant reste le même. Le même texte s'écrit là depuis des milliers d'années, même si je n'étais pas là, ne serai pas là les hivers prochains pour le lire. Ces parcours d'apparence arbitraire, ces sentiers, ces creux, ces empreintes, ces petites pelotes rondes et dures dans la neige, tout cela fait sens. Il s'y écrit peut-être des choses obscures. D'autres vies s'y manifestent, disent leurs courses et leurs histoires, leurs peurs et leurs morts. Les pattes fines d'une musaraigne ou d'un campagnol dessinent un tracé bref et erratique sur la neige. Et voici le trou où disparaît le petit animal. Et là passe la trace d'une hermine, vive et curieuse, qui disparaît à son tour dans l'ombre blanche de ce trou. La neige court sous mes yeux, sur la piste à mesure que j'avance, en traînée légère qui s'éparpille comme des peuples à la déroute. Ce qui aurait pu n'être que le silence, une page vierge, une absence, me parlait aussi clairement que si j'avais été là pour voir. Je m'imaginais un homme menant la vie d'un sage au plus froid des terres et qui suivrait chaque indice laissé par la neige en écrivant un livre au fur et à mesure. Ce serait l'histoire de la neige, le livre de l'hiver. Un texte d'un millier d'années que viendrait lire un peuple de chasseurs dans un avenir lointain. Qui était là et qui s'était exilé? Comment se nommait-il? Que tuait-il? Que mangeait-il? Et finalement, qui laissait-il derrière eux? J'étais alors seul la plupart du temps, la vie conjugale et la vie dans les bois n'ayant pas fait bon ménage. Outre ma propre personne, je disposais de 4 chiens, de 2 traîneaux, d'un harnais et de raquettes, de quelques livres et j'avais ma passion pour cette région. J'étais bien décidé à prendre tout ce que je pouvais afin de me préparer à une longue vie dans les bois. D'une certaine façon, étrange et intuitive, c'était comme si je m'initiais à une langue étrangère, où le moindre détail, le moindre accent avait une signification particulière. Cette langue m'amenait pas à pas dans un monde que j'avais, me semblait-il, connu naguère avant de l'oublier. Un monde rempli d'ombre, hanté par les visions encore à moitié présentes du passé. J'y trouvais mes marques, plus ou moins incertains, même si j'étais seul, loin de tout ce qui avait entouré mon enfance, que j'étais là où je devais être, à faire ce que je devais faire. 25 ans de solitude, mémoire du Grand Nord. John Haynes, édition Gallmeister.
The stars, the snow, the fire. Soit les étoiles, la neige, le feu. C'est le titre exact de ce récit écrit en 1989 par John Haynes. À l'âge de 23 ans, l'Américain est parti s'installer dans une cabane isolée, en Alaska, près de Fairbanks. Il va donc y passer 25 ans, seul, la plupart du temps, parmi les étendues vierges, dans un quotidien presque monacal, de trappeur-poète, au rythme de la chasse, la pêche, les traques, les pièges et l'écriture. Au départ, quand il débarque en 1947 dans cet endroit reculé, John Haynes est artiste peintre. Mais l'hiver venu et ses tubes de peinture gelée, il se tourne vers l'écriture. Une écriture qui dessine de nobles et magistrales tableaux du Grand Nord, tout en ombre et en nuances, les mots tels des coups de pinceau. Son livre, publié en France en 2006, est une référence du nature writing, ce genre littéraire profondément lié aux espaces américains où le sauvage rôde dehors comme il sommeille en chacun de nous. Ici, loin de tout, par moins 35 degrés, parmi les bouleaux et les épicéas, les martes, les élans ou les ours, John Haynes a fini par trouver sa place et nous le fait savoir, ou plutôt sentir. Une quête d'harmonie et d'apaisement qui n'est pas sans rappeler celle d'une autre grande poète des immensités, de sable cette fois, Isabelle Eberhardt.
Il est des heures à part, des instants très mystérieusement privilégiés où certaines contrées nous révèlent, en une intuition subite, leur âme, en quelque sorte leur essence propre, où nous en concevons une vision juste, unique, et que des mois d'études patientes ne sauraient plus ni compléter, ni même modifier. Cependant, en ces instants furtifs, les détails nous échappent nécessairement et nous ne saurions apercevoir que l'ensemble des choses. État particulier de notre âme, ou aspect spécial des lieux, saisi au passage et toujours inconsciemment? Je ne sais. Ainsi, ma première arrivée à Elwed il y a 2 ans fut pour moi une révélation complète, définitive de ce pays âpre et splendide qui est le souffle, de sa beauté particulière, de son immense tristesse aussi. C'était l'heure élue. L'heure merveilleuse au pays d'Afrique, quand le grand soleil de feu va disparaître enfin, laissant reposer la terre dans l'ombre bleue de la nuit. Du sommet de cette dune, on découvre toute la vallée d'Elwed, sur laquelle semblent se resserrer les vagues somnolentes du grand océan de sable gris. Étagée sur le versant méridional d'une dune, Elwed, l'étrange cité aux innombrables petites coupoles rondes, changeait lentement de teinte. Ici, le Sahara, âpre et silencieux avec sa mélancolie éternelle, ses épouvantes et ses enchantements, a conservé jalousement la race rêveuse et fanatique venue jadis des déserts lointains de sa patrie asiatique. Et ils sont très grands et très beaux ainsi, les nomades aux vêtements et aux attitudes bibliques, qui s'en vont prier le Dieu unique et dont aucun doute n'effleurera jamais les âmes saines et frustes. Et ils sont bien à leur place là, dans la grandeur vide de leur horizon illimité, où règne et vit splendide la souveraine lumière. Un droit que bien peu d'intellectuels se soucient de revendiquer, c'est le droit à l'errance, au vagabondage. Et pourtant, le vagabondage, c'est l'affranchissement, et la vie le long des routes, c'est la liberté. Rompre un jour bravement toutes les entraves dont la vie moderne et la faiblesse de notre cœur ont chargé notre geste, s'armer du bâton et de la besace symbolique, et s'en aller. Pour qui connaît la valeur et aussi la délectable saveur de la solitaire liberté, car on est libre que tant qu'on est seul, l'acte de s'en aller est le plus courageux et le plus beau. Égoïste bonheur peut-être, mais c'est le bonheur pour qui sait le goûter. Être seul, être pauvre de besoin, être ignoré, étranger chez soi partout et marcher solitaire et grand à la conquête du monde.
Le besoin de solitude, nécessité blessante mais impérieuse, c'est un des thèmes majeurs de l'œuvre qu'a laissée derrière elle Isabelle Eberhardt. Cette femme, née en Suisse en 1877 et partie dès l'âge de 20 ans dans l'Algérie coloniale de l'époque, est une figure à part dans le panthéon des écrivains nomades. Ses écrits sur le désert, à commencer par « Au pays des sables », demeurent à ce jour l'un des témoignages les plus puissants et les plus sensibles laissés par une occidentale sur le Sahara. Âme rebelle et tourmentée, Isabelle va faire corps avec ce désert qu'elle aimait tant, au point de se convertir à l'islam, d'entrer dans une voie soufie et d'endosser le costume masculin pour y vivre à sa guise et courir à cheval sur les pistes sahariennes. Décédée brutalement, à seulement 27 ans, Isabelle Eberhardt revendiquait donc le droit au vagabondage. Un droit dont s'est aussi emparé le navigateur et poète des mers Bernard Moitessier. Quand en 1969, alors en tête de la première course en solitaire et sans escale autour du monde, il décide, à la surprise générale, de poursuivre sa route sans passer la ligne d'arrivée. En 1986, Bernard Moitessier était venu en parler sur l'antenne de RFI au micro d'Ariel Kassim.
Je ne prévoyais pas au départ que je ne reviendrais pas. Si on m'avait dit, tu sais, tu reviendras pas, tu continueras, j'ai dit non, mais t'es fou, ça va pas la tête. Et les règles du jeu ont changé en cours de route après 6 mois de mer. J'avais absolument plus envie de rentrer. J'ai continué sur le Pacifique et puis je me suis retrouvé après 10 mois de mer à Tahiti au lieu d'être rentré à Plymouth. J'ai fait une fois et demi le tour du monde sans m'arrêter.
Et là, il faut préciser qu'on est en 1968-1969. C'est à partir de ce moment-là que vous avez découvert cette philosophie d'homme libre, toujours tu chériras la mer.
Ça, je l'avais depuis tout le temps. Mais... Disons, avant ce grand voyage, le but de ma vie, en fait, c'était d'être tranquille, de ne pas avoir à travailler, pas faire un travail de bureau ou d'ouvrier. Et c'était en fait d'atteindre ma vitesse de libération, c'est-à-dire avoir assez d'argent de côté pour ne pas avoir de la hantise du pain quotidien. Ça, c'était le but de ma vie. Et pendant ce voyage, j'ai ressenti profondément qu'en fait, je faisais partie de l'humanité. C'était pas moi, ma sale gueule, ma famille, mon petit groupe de copains qui était le plus important, c'était l'ensemble. J'ai changé pendant ce voyage, disons. Je suis pas revenu le même. Ouais. Parti, j'avais une certaine forme et à l'arrivée, j'avais une forme un peu différente.
Vous avez dit aussi, la solitude qui fait mal, je l'ai connue dans la foule à Paris, jamais en mer.
Non, c'est vrai, j'ai jamais connu la vraie solitude qui fait mal en mer. Je l'ai connue à Paris, par contre.
Autre chose aussi que j'ai retenu, vous nous avez dit que cette course est inachevée. Maintenant, je dois continuer ma route vers mon Orient natal, c'est loin.
On peut écrire des choses sans très bien les percevoir soi-même. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais retrouver mes racines, retrouver l'essentiel, c'est un peu ça que je voulais dire. Mais c'est très difficile à exprimer tout ça. La philosophie asiatique, c'était surtout une philosophie de très très grande simplicité en mer. Les marins d'Indochine... Les pêcheurs, les caboteurs, ils n'avaient pas de moteur. Leur voile, c'était des feuilles de latanier tressées. Leur auban, c'était du gros fil de fer ou même des cordages. Les gens qui étaient calfatés avec une écorce de caïtram, enfin, c'est une écorce. Ouais, ça n'avait rien à voir avec les toupes. Les fers à calfa, ils étaient en bois. Les bateaux étaient chevillés avec des bois. Il n'y avait pas un seul clou là-dedans. Tout était simple. Et il est certain que ça m'a beaucoup servi pour naviguer, cette simplicité. Je m'aperçois, par exemple, pour Josua n'avait pas de winch pendant 3 ou 4 ans. Je faisais sans winch, je faisais avec des palans, je faisais autrement. J'ai passé le Cap Horn sans winch la première fois. Ça se passait très bien, ça aurait été plus facile avec des winch, mais ça n'empêchait pas qu'on peut naviguer d'une façon extrêmement simple.
Avant cet épisode qu'il fera entrer dans la légende, Bernard Moitessier était déjà connu pour être un hobo des mers à l'âme de poète. Né en 1927, en Indochine, il avait navigué dans sa jeunesse avec les pêcheurs du golfe de Siam, puis sillonné les mers du Sud. Son premier livre, « Vagabond des mers du Sud », paru en 1960, fera le récit de ce voyage semé d'embûches à bord de la jonque Marie-Thérèse. Mais son grand bateau restera Joshua, un voilier à la coque de 12 mètres qu'il bricole et baptise en hommage à Joshua Slocum, premier homme à avoir fait le tour du monde en solitaire à la voile. Et c'est justement à bord du Joshua en 1969 que Bernard Moitessier annonce son retrait de la course en balançant, avec un lance-pierre, sur un cargo qu'il croise au niveau du cap de Bonne-Espérance, ce stupéfiant message. « Je continue, sans escale, vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer. Et peut-être aussi pour sauver mon âme. » Après 300 jours de navigation, Bernard Moitessier finit sa course en Polynésie et écrit « La longue route » paru chez Artaud, récit de ses 10 mois sans toucher terre, seul, entre ciel et mer.
Écoute, Joshua. Coup de vent épuisant, lame dangereuse, nuage sombre qui court au ras de l'eau et porte toute la tristesse du monde, tout son découragement. On continue quand même, peut-être parce qu'on sait qu'il faut continuer, même si on ne comprend plus pourquoi. Ciel limpide, coucher de soleil couleur de sang, couleur de vie, sur une mer qui étincelle de puissance et de lumière, et vous donne toute sa force, toute sa vérité. Alors on sait pourquoi on continue, pourquoi on ira jusqu'au bout, et on voudrait aller encore plus loin. Mais sous les hautes latitudes, si l'homme est écrasé par le sentiment de sa petitesse, il est porté aussi, protégé par celui de sa grandeur. C'est là, dans l'immense désert de l'océan austral, que je sens pleinement à quel point l'homme est à la fois un atome et un dieu. Et quand je monte sur le pont à l'aube, il m'arrive de hurler ma joie de vivre en regardant le ciel blanchir sur les longues traînées d'écume de cette mer colossale de force et de beauté qui parfois cherche à tuer. Je vis de tout mon être ce qui s'appelle vivre. Et peut-être faut-il aller plus loin encore en regardant la mer. On peut la regarder pendant des heures et des jours et des semaines et des mois et des années peut-être. Et on peut voyager très vite et très loin avec elle et dans elle. Il suffit pour cela de poser le regard sur une vague. On peut rester sur le dessus ou le dedans de la vague, et même complètement à l'intérieur d'elle, et faire avec elle alors 10 fois le tour du monde rien qu'à regarder les nuages et le soleil et la lune et les étoiles par-dessus les nuages, avec la vague et dans la vague, sans rien faire d'autre que regarder et sentir. Mais on peut aussi prendre un rayon de lune à l'instant où il ricoche dans la mer, et se faire déposer par lui sur la terre, et courir la campagne, et respirer les arbres, et les choses de la terre, et revenir à bord pour regarder la lune, juste la regarder, et penser avec elle en respirant encore l'odeur de la terre et des choses du ciel. Et tout cela est facile. Il suffit de regarder la mer, de bien choisir la vague, juste de la taille qu'il faut, et de prendre le temps de voir dans la mer.
In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from a wide open sea. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the riverbank weeps to the old willow tree. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who dies full of beer, full of cries in a drunken down fight. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who is born on a hot muggy morn by the dawn's early light. Of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails. He'll show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, oh, bring me more fish, throw it down by my side. And he wants to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs and he zips up his fly.
Si loin, si proche. Écoutez, vous voyagez.
Les conquérants de l'inutile. Lionel Terray. Édition Guérin. Vivant depuis des années dans la trop civilisée vallée de Chamonix, où les téléphériques, les funiculaires et les confortables refuges rendent moins rude la pratique de l'alpinisme, habitué à l'élégante majesté des aiguilles, à la splendeur des masses glaciaires du Mont-Blanc et aux charmes aimables des verdoyantes Alpes savoyardes, en arrivant à la chapelle en Valgaudemar, j'éprouvais une impression de dépaysement presque aussi violent que si j'avais débarqué au Tibet. Dans cette vallée, tout était nouveau pour moi, la nature comme les hommes. Ici, point d'élégantes aiguilles qui, semblables à d'immenses flammes, s'élèvent vers le ciel dans un élan prodigieux. Point de glaciers imposants dont l'éclatante blancheur, en contraste avec le bleu du ciel et le vert des alpages, donnent au paysage une vie, une gaieté qui allège le cœur. Point de bruyantes bourgades fourmillantes de touristes. Point d'engins mécaniques venus troubler la solitude des cimes. Ici, la nature âpre et sauvage était demeurée presque vierge, et les hommes semblaient vivre dans un autre siècle. Les sommets aux crêtes arrondies, semblables à des châteaux en ruine, s'abattaient en sombres parois démantelées sur des pierriers immenses et d'arides alpages d'herbes rêches. Seuls quelques couloirs de neige sale et de maigres glaciers couverts de rocailles venaient donner une note plus claire à ce paysage d'une beauté austère. Au pied de ces sommets peu aimables, une étroite vallée trouvait difficilement sa place. Là, des hommes paraissant à peine sortis du Moyen-Âge vivaient misérablement, disputant à une nature hostile le moindre pouce de terrain cultivable, au point qu'en lisière de montagne, les maigres prairies d'herbes basses et les champs de céréales clairsemés s'infiltraient à travers la rocaille comme une dentelle verte et jaune. Tout au fond, le hameau de Rive du Sap, accroché entre deux couloirs d'avalanches, connaissait une vie plus primitive que bien des villages de l'Himalaya. Cette nature sauvage et cette vie rustique du Valgaudemar dégageaient une poésie sévère. Dès les premiers jours, je fus profondément pénétré par le charme au goût âpre de cette terre du bout du monde. Bien des années plus tard, lorsque j'ai eu la chance de visiter les lointaines montagnes de l'Asie et de l'Amérique, c'est avec enivrement que j'ai retrouvé cette ambiance des hautes vallées perdues.
De Chamonix, camp de base des alpinistes français, au sommet de l'Himalaya, Lionel Terray aura marqué de sa plume et de son coup de piolet l'histoire de l'alpinisme mondial. En 1961, le grimpeur français a 40 ans et publie son autobiographie, devenue culte depuis. 4 ans après, il connaîtra la mort lors d'une ascension dans le massif du Vercors. Durant sa courte vie, émaillée de records, de voyages et de premières, dont la plus fameuse est celle en 1950 de l'Annapurna à 8000 mètres, Lionel Terray a consacré sa vie à la montagne. Petit, il brave tous les interdits pour aller grimper, se mesurer à ses immensités à la verticale. En chemin, cordée oblige, il côtoie d'autres figures singulières qui, comme lui, ont envie d'en finir avec l'alpinisme martial et patriote. Sous la plume de Terray, la rhétorique de la conquête devient d'ailleurs inutile. Terrain de jeu et d'expression plus personnelle et poétique, la montagne est alors pour Terray un instrument de libération, voire de rupture. Et ce vent de liberté, le médecin explorateur français Jean-Louis Etienne l'a senti souffler quand, tout jeune, il a ouvert les pages des Conquérants de l'inutile. Une fois ce livre refermé, il décidera que sa vie se vivra en panorama.
Mon souffle givré se diffuse en volute dans le faisceau de la lampe frontale. Le rectangle clair du cahier où j'écris disparaît dans un brouillard lumineux. Engoncé dans ma veste en duvet, j'attends qu'il se dissipe pour repousser délicatement, du revers de ma main gantée, la poussière de glace qui s'est déposée sur la page. J'écris en retenant mon souffle, à l'inspiration. Je suis sous la tente en ce mois de mars 1986, seul, au milieu de l'océan Arctique. Il fait moins 49 degrés Celsius. Chaque soir, je note des informations vitales, ma position, les kilomètres parcourus, la distance qui me sépare du pôle Nord, les conditions météo. Je note mes fatigues, mes espoirs, mes petites victoires et mes états d'âme.
Après une première tentative, soldée par un échec, voilà donc le Français Jean-Louis Étienne à nouveau lancé au pôle Nord, dans une course mémorable contre la montre et la glace. Son objectif, atteindre pour la première fois le pôle géographique, seul, à ski de fond et sans chien, traînant derrière lui près de 50 kilos de ravitaillement sur l'immensité givrée de la banquise. À l'époque, point de GPS. Le soleil tiendra lieu de boussole, une liaison radio et une balise Argos faisant le lien avec le monde extérieur. Persévérer, paru aux éditions Paulsen, est le récit de cette aventure polaire en solitaire.
À force d'arpenter l'écorce épineuse de l'océan glacial, je commençais à connaître ce monstre froid qui ne dort que d'un œil. Dès que je m'arrêtais, je ressentais la tension entre les plaques de glace. J'entendais leurs mouvements lents et titanesques sous l'action du vent et du courant, les explosions sourdes qui faisaient trembler la glace. Derrière l'apparence figée de ce décor de fin du monde, je voyais la puissante tectonique qui agite les plaques de banquise. Des montagnes de glace s'élèvent, le sol tremble, les failles s'ouvrent. La glace vit. J'avais appris, comme les Esquimaux, à évaluer son épaisseur d'après sa texture et ses nuances de gris. La glace fine laisse entrevoir le noir de l'océan. Elle s'éclaircit progressivement vers un gris graniteux jusqu'à ce que la neige la recouvre d'un blanc uniforme et trompeur. Le dédale de glace était un cauchemar. La banquise semblait figée dans une tempête gigantesque où chaque lame serait restée suspendue à l'instant de déferler. Ce n'était plus qu'une immense houle froissée et déchirée sous les assauts du blizzard, des cadavres de vagues blanches fracturées par le gel. La brise tranchante qui venait du nord se faisait durement sentir. Livré à moi-même dans la sauvagerie arctique, j'implorais la miséricorde du Septentrion, mon dieu imaginaire du pôle. En vain. Je me sentais prisonnier dans l'antichambre de l'enfer, harcelé par le doute. Pourquoi étais-je revenu après mon échec? Comment avais-je pu oublier la dose d'inconscience et de volonté qu'il faut pour s'engager ici? Depuis quelques jours, ma moyenne de progression chutait. J'étais trop lent pour envisager une sortie glorieuse par le pôle. Marcher, 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 malgré l'usure et le manque de sommeil. Ça tournait à l'obsession. De plus en plus souvent, je m'arrêtais, les coudes appuyés sur les cannes de ski. Harassé, je m'endormais debout dès que je fermais les yeux, comme un oiseau migrateur en plein vol. Le camp de base suivait ma progression en temps réel, grâce à la balise Argos qui était en marche sur le traîneau. À la dernière vacation, Michel m'avait informé qu'ils assuraient une veille radio permanente. À 20h, j'estimais ma position à 89,55 degrés de latitude nord. Mon appel radio avec Resolute resta sans réponse. Ça ne m'affectait pas. En ces dernières heures, j'éprouvais le besoin de préserver l'intimité établie avec cet océan glacé dont j'avais appris les codes en 63 jours de solitude. J'avançais à la cadence des fondeurs qui entament le dernier tour de piste après la cloche. J'y croyais fermement.
Resolute Bay, Grand Nord canadien.
Ça y est, tu es au pôle 59, 89, 59 et des poussières, 4 degrés ouest, c'est gagné, à toi Jean-Louis.
5h du matin, dimanche 11 mai 1986, Jean-Louis Étienne a gagné son pari. Le marcheur solitaire n'a plus qu'à attendre l'avion qui, après 10 heures de vol, l'arrachera à la banquise. Mais la météo imprévisible se détraque. Sans le plein soleil, ce serait du suicide de poser au jugé le Twin Outer sur la glace. Une longue attente commence pour Jean-Louis. 92 heures, 4 jours, il bat malgré lui un second record, celui de l'homme qui aura habité le plus longtemps au pôle. Par radio, il nous dit « Je commence à avoir faim ». Alors, il faut prendre des risques. L'avion décolle surchargé en carburant et miracle, le ciel se dégage, Jean-Louis est sauvé. Maintenant, il peut en toute quiétude planter le drapeau français pile au point 90 degrés, le pôle Nord.
Après 63 jours de marche sur plus de 1000 km de banquise, Jean-Louis Étienne a réussi son exploit. Il va d'ailleurs y prendre goût et 4 ans plus tard, il partira au pôle Sud cette fois pour un nouveau record. La plus longue traversée de l'Antarctique en chien de traîneau sur 6300 km. Ces aventures s'inscrivent bien sûr dans une longue tradition d'exploration et d'expédition scientifique. Mais après lui, dans son sillage, elles se feront de plus en plus physiques et sportives, avec l'autonomie et le dépassement de soi pour moteur. Chaque époque a son explorateur fétiche. En ce moment, Mike Horn occupe tous les écrans et se met en scène dans des défis aussi risqués que médiatiques. Mais avant et après lui, il y a eu et il y aura toujours des âmes désintéressées qui marchent pour avancer et se dépouiller.
I went to Alice Springs, I guess when I was 23 or 24, and I had this crazy idea that I wanted to be in the deserts of my country.
Je suis allée à Alice Springs quand j'avais, je crois, 23 ou 24 ans. Et j'ai eu cette idée folle de découvrir les déserts de mon pays. J'ai eu le sentiment qu'il fallait que je sois seule. Je voulais être dans ce désert seule. Et l'unique moyen d'y parvenir, parce que je n'avais pas d'argent et que je ne pouvais pas m'acheter de camion, c'était de récupérer des chameaux, laisser-les, les entraîner pour les monter. Après quoi, je pouvais enfin partir, c'était l'idée. C'était une démarche totalement personnelle. Je ne voulais impliquer personne. Je ne voulais pas que ça se sache. Et bien sûr, je ne savais pas du tout que j'écrirais dessus un jour.
I didn't really think about how odd it was to be a woman doing this thing.
Je ne me suis jamais dit que c'était étrange pour une femme de faire ça. C'était juste ce que je voulais faire. Donc je suis descendue à Ayers Rock, puis j'ai franchi la frontière de l'Australie méridionale. J'ai ensuite rejoint le désert de Gibson. Puis tout le long vers l'ouest, jusqu'à la côte.
The trip was 9 months, roughly. I reached the Indian Ocean. That was it.
Le voyage a duré 9 mois environ. J'ai atteint l'océan Indien. C'était la fin. En arrivant là, c'était vraiment étrange pour moi. Je me disais, bon, ça s'arrête ici. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je voulais juste continuer, en fait. C'est ce que j'ai écrit dans le livre. Vous savez, le voyage avec des chameaux ne commence ni ne s'arrête jamais. Il change de forme seulement. Et je pense que la vie est comme ça. On va d'un défi à l'autre.
It wasn't nearly as hard as coming back out and coming back into the real world.
Bien que cela ait été difficile pour moi de rentrer dans ce désert, d'apprendre à y vivre et à y adopter l'état de conscience qu'il fallait, c'était finalement presque plus difficile pour moi d'en sortir, de retourner dans le monde réel. Et d'une certaine manière, je crois que je n'en suis jamais vraiment revenue. Cette expérience m'a donné du recul sur la vie contemporaine, la vie moderne. Je ne la prends pas tellement au sérieux. Cette tension qui existe entre le fait d'être libre et celui d'être en sécurité, c'est quelque chose auquel nous devons réfléchir. Sommes-nous vraiment prêts à sacrifier notre liberté pour cette prétendue sécurité? Quelle que soit cette chose qui vous retient, lâchez-la. Faites ce que vous avez envie et ne laissez pas la peur entraver votre vie.
En 1977, sans peur et sans entrave, l'Australienne Robin Davidson aura mis 2 ans pour mettre sur pied cette longue marche avec des chameaux sur près de 2000 km de désert et de bouche. Son périple, sponsorisé par le National Geographic et le livre qu'elle va en tirer, Trax, feront d'elle une icône du voyage appalant, à la découverte de soi et du sens à donner au mot liberté. Dans les étagères des bibliothèques du monde, ce best-seller, Trax, doit certainement voisiner avec Into the Wild, traduit en français par Voyage au bout de la solitude. Écrit en 1996 par John Krakauer, ce livre retrace la fuite tragique de Christopher McCandless, un jeune américain tout juste diplômé qui laisse tout derrière lui pour partir en vagabond vers l'Alaska. 2 ans plus tard, on le retrouvera là-bas, mort, dans un bus désaffecté où il avait trouvé refuge. Ce livre, adapté au cinéma par Sean Penn, occupe encore aujourd'hui une place singulière dans l'écriture de nature si chère aux Américains.
Tout ce que la mer a à offrir, ce sont ses grosses bourrasques. Et de temps en temps, une sensation de puissance. Il est vrai que je connais pas grand-chose à la mer. Mais ici, en tout cas, c'est comme ça. Mais je sais aussi que dans la vie, le plus important, ce n'est pas nécessairement d'être fort, mais de se sentir fort. Et de se mettre à l'épreuve au moins une fois. De se retrouver au moins une fois dans la condition humaine la plus archaïque. D'affronter seul la nature aveugle et sourde. Sans rien pour vous aider, si ce n'est vos mains et votre tête.
Indian Creek, Peter Fonda. Édition Gallmeister. Après le départ des gardes, la tente que nous avions dressée me parut encore plus petite. Je me tenais devant elle et un frisson que je croyais dû à une bourrasque me parcourut le cou. Allais-je vraiment vivre là-dedans désormais? Serait-ce là mon foyer pour les 7 mois à venir? Seul, durant tout un hiver? Je jetai un coup d'œil vers la rivière sinueuse, entre les parois sombres et accidentées du canyon qui découpait déjà le soleil de ce milieu d'après-midi. Il n'y avait rien au-delà de ces murs de pierre et de verdure, si ce n'est les étendues sauvages de la Selway Bitter Road à l'infini. J'étais seul, au cœur même de la solitude. L'ombre envahit le canyon et je m'en éloignais rapidement pour rejoindre la lumière du soleil qui inondait la prairie. L'herbe m'arrivait aux genoux et bruissait sous mes pas. Le vent faisait onduler les sapins immenses et les cèdres imposants qui dessinaient l'entrée de la clairière. Je m'arrêtais au poteau téléphonique dont le garde m'avait assuré qu'il serait mon seul lien avec le monde extérieur. Nous avions découvert la veille que le téléphone ne fonctionnait pas. Je le décrochais tout de même. J'écoutais son silence sourd, la voix du reste du monde. Je raccrochais le téléphone sans vie et me dirigeais vers la tente. Je soulevais la porte d'entrée en toile et pénétrais à l'intérieur, loin du monde sauvage.
Aux confins de l'Idaho, près de la frontière avec le Montana, Peter Fromm échoue à 20 ans, dans une tente des eaux et forêts, après un concours de circonstances qui va l'amener à quitter un temps les bancs de l'université pour ceux de la vie sauvage. Sa mission, surveiller 2 millions d'œufs de saumon dans la rivière en contrebas, une tâche qui finalement lui laissera tout le loisir de mener une introspection jubilatoire, tout en ironie, sur sa condition de ranger amateur dans les Rocheuses à la fin des années 70. Enfant, quand il aimait explorer la nature par lui-même, son père appelait ça « traînasser dans les bois ». Et dans son livre « Indian Creek » qu'il a rendu célèbre, Peter Fromm réussit le tour de force de nous tenir en haleine avec rien moins que ça. « Traînasser dans les bois ».
Ce premier matin, j'inspectais les lieux, plein de l'immense responsabilité qui m'avait été confiée. Mais le garde avait déjà réglé l'écluse pour l'hiver et je ne trouvais pas la moindre trace de glace. Je regardais l'eau, claire comme du cristal. Il n'y avait aucune trace de mes poissons, tous cachés au fond dans les rochers. Il n'y avait rien à faire. C'était ça, mon boulot. Rien de plus. S'il y avait de la glace, c'était l'affaire de 15 minutes par jour, en comptant le trajet. J'avais tout le reste du temps pour moi, mais je devais passer chaque jour à cet endroit de la rivière, pour les 7 mois à venir. Prendre soin de poissons invisibles et occuper d'une manière ou d'une autre les 23h30 restantes de la journée. Pendant la journée, quand je n'étais pas dehors avec mon arme ou occupé à débiter du bois, je passais l'essentiel de ces premières semaines à m'acclimater à ma tente et aux forêts environnantes. J'appris à faire plus ou moins bien la cuisine. J'arrangeais un vieux grill que j'avais trouvé et le fixais dans mon fourneau. En laissant le bois brûler jusqu'à donner des braises et en réglant le tirage du poêle, je réussis à le transformer en four. Il me fallut toutefois un peu de temps pour maîtriser la régulation de la chaleur et au début, la plupart de mes projets finirent en cendres. Les petits revers de ce genre provoquaient parfois des changements d'humeur spectaculaires, jusqu'à un sentiment de solitude tel que j'en avais du mal à respirer. Alors, de minuscules victoires, comme ce jour où je sortis du fourneau ma première miche de pain doré, me faisaient bondir de la tente et courir dans la prairie en hurlant comme un idiot, riant et dansant comme si j'avais gagné au loto. Pour banal qu'ils fussent, chacun de ces triomphes interrompait la marche de la solitude, toujours présente, tapie non loin de moi, à marauder dans les parcelles sombres des arbres, dans l'eau noire qui s'efforçait de ne pas geler, et même dans la manière dont la rivière parlait le soir, avec des inflexions de voix que je ne lui connaissais pas durant le jour. Je commençais à trouver ma place dans les bois, et je m'y installais confortablement.
Si loin, si proche. Tous les voyages sont sur RFI.
Jeremiah Johnson made his way into the mountains, betting on forgetting all the troubles that he knew. The trail was wide and narrow, so the eagle or the sparrow showed the path he was to follow as it flew. A mountain man is a lonely man, and he leaves a lot behind. It ought to have been different, but oftentimes you find the story doesn't always go the way you had in mind. Jeremiah's story was that kind.
L'Amérique et ses grands espaces sauvages et indomptables qu'une âme frustrée solitaire viendra apprivoiser, ce n'est pas qu'un mythe. Et dans le genre, Edward Abeille, qu'on imagine barbu, avec un chapeau en feutre mou sur la tête, ce qu'il est, remplit parfaitement le job. Avec en prime un regard acéré sur la nature ou ses contemporains et un esprit visionnaire pour son époque. Anarchiste, iconoclaste, un brin misanthrope, Edward Abeille part dans les années 50 travailler deux saisons comme ranger dans un parc national de l'Utah, parmi des merveilles de la nature, d'impressionnantes arches naturelles, de grès ocre et un désert à perte de vue. Il y retournera d'ailleurs des années après. Son récit, Désert solitaire, paru en 1968 pour la première fois et édité en France chez Gallmeister, est un éloge, ou plutôt une élégie du désert.
C'est le plus bel endroit au monde. Des endroits comme ça, il en existe beaucoup. Tout homme, toute femme a dans son cœur et dans son esprit l'image de l'endroit idéal, de l'endroit juste, de l'authentique chez soi, connu ou inconnu, réel ou imaginé. Une péniche dans le Cachemire, un appartement avec vue sur Atlantic Avenue à Brooklyn, un corps de ferme gothique tout gris au bout d'un chemin de pierre, une vue sur le monde depuis un appartement confortable en haut d'une tour noyée dans le smog onctueux et velouté de Manhattan, Chicago, Paris, Tokyo, Rio ou Rome, il n'y a pas de limite à la capacité qu'a l'homme de se sentir chez lui quelque part. Pour moi, ce sera Moab, Utah. Je ne parle pas de la ville elle-même, bien sûr, mais de ses environs, le pays des canyons, le désert de grès lisse. La poussière rouge et les apics brûlés et le ciel solitaire. Tout ce qui se trouve au-delà du bout des routes. Ce choix m'est apparu comme une évidence ce matin lorsque je suis sorti d'une caravane, de ma caravane de logement du service des parcs, que j'ai admiré pour la première fois de ma vie un lever de soleil sur les Hoodoos de l'Arches National Monument. Admirant bouche bée ce spectacle monstrueux et inhumain de rocs et de nuages et de ciel et de vastitude, je sens une ridicule vague d'avidité et de désir de possession m'envahir. Je veux connaître tout cela, je veux posséder tout cela, je veux étreindre toute cette scène intimement, profondément, intégralement, comme un homme peut désirer une belle femme. Souhait insensé ? Peut-être pas. Au moins n'y a-t-il rien d'autre là, aucun humain pour me disputer cette possession. J'aime mon job. Le salaire est généreux, je pourrais même dire somptuaire. 1,95 $ de l'heure, mérité ou pas, solidement garanti par la plus puissante armée de l'air, la plus grosse dette publique et le plus gros produit intérieur brut du monde. Les avantages en nature sont inestimables. Air pur, quiétude, solitude et espace, vue dégagée. Oui, c'est un bon job, mais il y a un nuage à l'horizon. Un petit nuage noir pas plus gros que mon poing et dont le nom est progrès. Le progrès est enfin arrivé aux Arches, après 1 million d'années d'abandon. Le tourisme industriel est là. Il y a les gens qui plaident avec franchise et témérité pour l'éradication des derniers vestiges de terres sauvages et l'assujettissement de la nature aux besoins non pas de l'homme, mais de l'industrie. C'est une vision courageuse, admirable de simplicité et de puissance, par ailleurs soutenue par le poids de toute l'histoire moderne. Elle est également assez inepte. Je n'en débattrai pas ici. Il y aura aussi d'autres lecteurs, je l'espère, qui partageront mon présupposé fondamental selon lequel la nature sauvage constitue une partie essentielle de la civilisation. Le complexe automobile a déjà presque réussi à étrangler nos villes. Ne le laissons pas détruire nos parcs nationaux. Le désert ne se soucie absolument pas que nous vivions ou que nous mourions. Que les hommes réduisent en leur folie chaque ville à un tas de gravats noirs, qu'ils noient la planète entière sous un nuage de gaz létal, les canyons et les montagnes, les sources et les rochers demeureront. Le soleil percera la brume, de l'eau se formera et la tiédeur couvrira cette terre. Et au bout d'un temps suffisant, au bout du temps qu'il faudra, quelque part, des choses vivantes émergeront et se rejoindront et se dresseront de nouveau pour prendre peut-être un tour différent, cette fois un tour meilleur. J'ai vu le lieu appelé Trinity, au Nouveau-Mexique, où nos sages firent exploser la première bombe atomique et où la chaleur de l'explosion vitrifia le sable en une sorte de granit verdâtre. L'herbe y repousse déjà, et le cactus, et le mesquite. C'est sur ce socle rocheux de foi animale que je m'appuie et que je me dresse, là, près de la vieille route qui mène tout au bout, hors de la vallée des paradoxes. Oui, les pieds sur terre. Touchons du bois. Touchons de la pierre. Et bonne chance à tous.
Après la parution de Désert solitaire et surtout du gang de la clé à molette, un roman cette fois qui raconte une folle odyssée d'écolo saboteurs de ponts ou de voies ferrées qui balafrent le désert, on a fait d'Edouard Dabeille un des patriarches de l'écologie radicale aux États-Unis. Disons qu'il fait partie des sentinelles, aux côtés de John Muir ou Henry David Thoreau, qui lui aussi prenait la vie dans les bois et la désobéissance civile. Sentinelle, ou plutôt éclaireur, car c'est celui qui part seul, devant, pour prévenir des dangers et montrer le chemin. En retrait du monde, c'était une série littéraire en 2 épisodes de Laura Larry et moi-même. Merci à Vladimir Cagnolari, Sarah Lefebvre et Lucie Bouteloup pour leur lecture. Merci à la Sonothèque de RFI pour ses archives. Merci aux éditeurs pour la mise à disposition de tous ces ouvrages. Et merci à vous, chers auditeurs, de votre écoute. À la semaine prochaine pour d'autres voyages radiophoniques qui, on l'espère, vous emmèneront loin de chez vous.